Heureux qui ne suit pas le conseil des gens sans foi ni loi, qui ne s'arrête pas sur le chemin de ceux qui se détournent de Dieu, et qui ne s'assied pas avec ceux qui se moquent de tout. Ce qu'il aime, au contraire, c'est l'enseignement du Seigneur. Il le médite jour et nuit. Il est comme un arbre. Planté près d'un cours d'eau, il produit ses fruits quand la saison est venue, et son feuillage ne perd jamais sa fraîcheur. Tout ce que fait cet homme est réussi.
Comment comprendre ce texte? Quand on lit la Bible, on se rend compte qu'il y a plusieurs sujets, plusieurs préoccupations qui sont abordées. Et une des préoccupations de ceux qui ont écrit la Bible, c'est de bien vivre sa vie. D'avoir une bonne vie, une vie réussie. Et on trouve dans la Bible tout un corpus de livres qu'on appelle la littérature de sagesse, où les auteurs réfléchissent à ce que c'est qu'une bonne vie. Et pour le sage, une bonne vie, c'est une vie qui laisse une trace. Une vie dont on se souvient, une vie qui porte du fruit. Comment porter du fruit ? Comment faire pour qu'un arbre porte de beaux fruits ? J'entendais quelqu'un rapporter la discussion qu'il avait eue avec un homme qui s'occupait d'un verger. Il lui avait posé cette question : comment faire pour que mes arbres aient de beaux fruits ? Et le jardinier lui avait dit : ne t'occupe pas des fruits. Ça ne sert à rien de venir sur ton arbre frotter les pommes pour qu'elles soient plus belles. Ne t'occupe pas des fruits. Occupe-toi de l'arbre. Si l'arbre est en bonne santé, il te donnera de beaux fruits. Donc pour porter des fruits, s'occuper de l'arbre. Le psaume que nous avons lu, un extrait du psaume, nous avons lu les trois premiers versets, il continue encore un peu, nous dit que pour bien vivre sa vie, pour porter du fruit, il faut éviter les mauvaises influences et suivre les bonnes. Éviter les mauvaises influences. Éviter ceux qui n'ont aucune valeur. Ceux qui se détournent de Dieu, qui veulent personne au-dessus d'eux, qui ne veulent rendre de compte à personne. Éviter ceux qui se moquent de tout. Pas seulement des valeurs, mais qui sapent ceux qui en ont en se moquant d'eux et de tout. Et, je ne sais pas si vous avez fait attention pendant la lecture, il y a dans ces versets que nous avons lus une gradation. Heureux celui qui ne suit pas, littéralement, qui ne fait pas route avec, qui ne s'arrête pas, qui ne s'assoit pas. Le psaume décrit l'attitude à éviter, celui qui ne respecte rien et petit à petit s'installe dans une attitude cynique. Évitez donc les mauvaises influences et au contraire, recherchez la bonne influence. La bonne influence, c'est Dieu. L'homme sage recherche Dieu, celui qui a tout créé, celui qui sait comment fonctionne l'univers, qui connaît parfaitement ce monde qui nous semble fou et nous échappe. Et le sage qui cherche Dieu le trouve dans la Bible, dans sa parole. Il en fait un guide pour sa vie. Parce que il ne suffit pas de connaître Dieu, il faut mettre en action cet enseignement. Plus loin dans la Bible, il est écrit « Si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comme il était. La parole est faite pour être mise en pratique. Et l'homme sage n'est pas seulement un homme qui recherche ce que Dieu a à dire, mais qui le met en action. C'est un homme d'action. Voilà donc comment porter du fruit. Éviter les mauvaises influences, suivre les bonnes. C'est un beau programme, mais est-ce qu'on a un moyen de vérifier que ça marche? Eh bien, le psalmiste qui a écrit ce que nous avons lu donne un moyen de vérifier. Il annonce. Celui qui suit ses conseils, il sera comme un arbre en bonne santé qui porte de beaux fruits. Il ne dit pas que cet homme-là n'aura pas de problème, que tout sera toujours rose pour lui, qu'il sera riche, qu'il aura la plus belle femme du monde, que sais-je. Un arbre, ça essuie des soucis tout de même. Les intempéries, le soleil qui tape, la pluie qui tombe, la grêle, les animaux aussi qui viennent arracher les feuilles, casser les branches. La vie réussie, c'est celle qui marche sur le long terme, pas celle qui rose tous les jours. Et cet arbre dont nous avons parlé, ce n'est pas un résultat immédiat, c'est quelque chose de long, un processus qui prend du temps pour pousser, pour se renforcer. Mais il y a cette promesse que celui qui suit ce programme portera du fruit, qu'il laissera une trace. Voilà ce que nous dit ce passage. Jonathan, Christine, pour vos vivres, vous souhaitez suivre la bonne voie. Sur votre faire-part, vous avez mis cette parole de Jésus, « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». Cette parole témoigne de ce que vous croyez, que Jésus-Christ est le chemin à suivre. Mais alors que vous débutez une nouvelle aventure, qu'il y a ce nouveau « un » que vous formez à deux, que vous commencez une nouvelle vie, je vous invite à chercher à la réussir. Et suivre la méthode que nous avons lue dans le psaume 1. Éviter les mauvaises influences, suivre les bonnes. Les mauvaises influences. Il est facile de rire du mariage. Nous connaissons tous des blagues à son sujet. Le mariage, c'est résoudre à deux des problèmes qu'on n'aurait jamais eu tout seul. C'est amusant, mais ce n'est pas toujours faux. Mais c'est facile du passé du rire à la moquerie, de la moquerie au cynisme. Facile de répéter, de tomber dans un discours où on dirait que les hommes et les femmes ne peuvent pas se comprendre. Que le mariage est une cohabitation où il faut tirer son épingle du jeu, marquer son territoire, bouffer pour ne pas être bouffé. Du coup, on peut dire, et on entend, qu'il est illusoire de croire qu'on peut aimer une personne toute sa vie. Qu'un tel engagement, c'est une folie. Ou alors, on peut entendre que le mariage, ça ne sert à rien, qu'on peut simplement se mettre ensemble sans avoir de compte à rendre à personne. Si vous êtes ici, devant nous, c'est que vous n'avez pas écouté ces conseils. Au contraire, vous êtes prêt à relever le défi de la vie à deux, parce que vivre à deux, c'est un défi. C'est s'accorder quand on est différent. C'est vivre ensemble au quotidien, supporter les habitudes de l'autre. C'est pas toujours évident. Mais heureusement, il y a l'amour que vous vous portez. Cet amour sur lequel vous construisez et qui a besoin d'être entretenu, cultivé, sous peine, sinon, d'être submergé par ces habitudes irritantes dont je parlais à l'instant. éviter les mauvaises influences, rechercher les bonnes. Et comme pour la vie, pour le mariage, les bons conseils viennent de Dieu. Il nous dit dans sa parole que se marier, c'est un triple mouvement. Quitter, s'attacher, devenir. Quitter père et mère. Pas seulement le domicile des parents, mais la vie qu'on avait avec eux. Ce qu'ils nous ont apporté, faire l'inventaire de toutes ces valeurs pour pouvoir construire à deux son référentiel de valeurs. S'attacher l'un à l'autre, lier son destin l'un à l'autre, ne pas laisser la porte à une fin possible, mais non, s'attacher, persévérer, lier son destin, travailler coûte que coûte à la fidélité. Et devenir une seule chair, ne pas se contenter de la suite de la vie qu'on avait avant, avec un peu plus d'affection, avec quelqu'un avec ses côtés, mais avoir la ferme volonté de construire quelque chose de nouveau ensemble, une nouvelle entité, un couple, un mariage, une famille, appelez-le comme vous voulez. La Bible dit une seule chair. Des conseils, la Bible en donne aussi des conseils pratiques. Et celui que je retiens, je ne vais pas dire que j'applique, que je m'efforce de suivre, celui de la soumission. La soumission mutuelle, tous les deux soumis l'un à l'autre, recherchant l'intérêt de l'autre avant le sien. L'intérêt dans ce qui fait ma particularité. Pour l'homme, accepter d'être un leader, mais un leader qui fait don de lui-même pour son épouse, pour lui offrir ce dont elle a besoin. Je ne parle pas du côté matériel. Lui offrir émotionnellement ce dont elle a besoin pour être bien, pour être elle-même avec sa personnalité propre. Pour l'épouse, être un vis-à-vis égal et unique dans la soumission. Non pas dans une lutte de domination avec son mari, mais à l'écoute, dans le respect. Et tout cela avec la joie et le bonheur. La Bible invite à jouir l'un de l'autre, à avoir du plaisir et de poursuivre ce plaisir avec la femme de ta jeunesse, avec l'homme de ta jeunesse. Ce choix que vous le faites, poursuivez-le et cultivez-en le plaisir, jour après jour. Voilà un vaste programme. Mais là encore, vous allez commencer à le faire. Vous êtes consacré à, vous avez consacré ce temps de préparation, ce temps de fiançailles à la préparation au mariage. Vous avez réfléchi à ce que dit la Bible. Eh bien, poursuivez. Puisez encore et encore dans la Bible, dans cette rivière d'eau vivifiante, des conseils pour construire votre mariage. Et alors votre mariage sera tel un arbre fécond. La fécondité dans le mariage, ce n'est pas seulement les enfants qu'on peut avoir. La fécondité, ce n'est pas une famille nombreuse. On peut laisser une trace sans enfant. Transmettre les valeurs, pratiquer l'hospitalité, le don de soi pour les autres. Inspirer les autres. Et c'est mon vœu pour vous, que vous soyez un couple vers lequel les autres peuvent se tourner. Pour se nourrir et cueillir des fruits qui les aideront à grandir eux aussi. Voilà. Voilà ma prière pour vous, que ce chemin que vous avez commencé ensemble, vous le poursuiviez sur la bonne voie, celle voulue par Dieu. Et que nous tous, également, nous puissions, dans nos mariages, ou individuellement, être ces arbres en bonne santé, qui portent du fruit.